VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, 17h30 GMT, Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 23 février 2017, John Linden en direct de Washington. Au sommaire ce soir, au Niger, deux soldats tués et plusieurs personnes blessées selon le gouvernement. C'est le bilan provisoire d'une attaque visant un détachement de l'unité antiterroriste. Nigeria, deux archéologues allemands ont été enlevés dans l'état de Kaduna. Les ravisseurs ont également abattu deux villageois. La peur s'empare des Africains sans papier aux États-Unis. Plusieurs d'entre eux sont menacés d'expulsion. Et puis vous retrouverez Nicolas Pinot à la fin de ce journal pour les sports et Morgane Guiriec pour la Minute Éco. Tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Ouvrons ce journal par le Niger où une patrouille des forces armées a été attaquée mercredi dans l'après-midi à Walam, dans le nord-ouest du pays, à la frontière avec le Mali. Selon le gouvernement, l'attaque a fait deux morts dans les rangs des militaires. Mais d'autres sources annoncent un bilan plus lourd. Les précisions de notre correspondant en Niamey, Abdul Razak Idrissa.
L'attaque a eu lieu selon un communiqué du ministère de la Défense nationale aux environs de 16 heures à quelques kilomètres de Tiloa. Bilan, 2 morts, 18 blessés et 14 portés disparus parmi les militaires nigériens. Le communiqué ajoute que des opérations de ratissage ont été engagées pour neutraliser les terroristes en fuite. Un peu avant ce communiqué officiel, des bilans plus lourds ont été annoncés. Il s'agit notamment de celui qui fait cas de 11 militaires nigériens tués et plusieurs autres portés disparus, ainsi que des véhicules de l'armée nigérienne emporté. Une source sécuritaire de VOA Afrique ainsi qu'un élu de la zone de l'attaque confirme un bilan similaire. La localité de Walam est située à une centaine de kilomètres de la capitale Niamey. Elle est fréquemment ciblée par les attaques des groupes djihadistes du Nord Mali dont elle est frontalière. La dernière remonte au mois de novembre 2016 avec un bilan officiel de 5 soldats nigériens tués. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
ONG et pays donateurs se retrouvent aujourd'hui et demain à Oslo pour discuter de l'aide humanitaire d'urgence aux millions de personnes menacées par la famine dans le nord-est du Nigeria où sévit le groupe djihadiste Boko Haram. L'objectif des Nations Unies est de réunir jusqu'à 1,4 milliard d'euros d'engagement pour la région du lac Tchad, bordée par le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad. Déshéritée et aride, la région est ravagée par 8 ans de violence. Dans ce coin du Sahel, la pénurie alimentaire a atteint des niveaux inquiétants, avec 5,1 millions de personnes manquant de nourriture et plus de 500 000 enfants souffrant de malnutrition. On reste au Nigeria, où deux archéologues allemands ont été kidnappés hier mercredi dans le village de Djenjia, situé dans le sud de l'état de Kaduna. Deux villageois qui ont tenté de leur venir en aide ont été abattus par les ravisseurs. Claire Morin-Gibourg.
L'enlèvement a été confirmé par Ousmane Aliou, porte-parole de la police locale. Les deux hommes étaient bien connus dans le village. Ils travaillaient depuis 10 ans sur le site d'archéologie dans cette région connue pour ses figurines, Nok en terre cuite. Les deux archéologues n'ont pas voulu bénéficier de l'escorte de sécurité de la police, préférant rester avec les riverains. Les deux femmes qui les accompagnaient n'ont pas été enlevées. Le kidnapping a eu lieu à une trentaine de kilomètres de la route reliant l'aéroport de Kaduna à la capitale fédérale Abuja. Cet enlèvement inquiète les autorités car l'aéroport d'Abuja doit être fermé pour 6 semaines à partir du 8 mars pour des travaux de réparation du tarmac. Les vols intérieurs doivent être détournés sur Kaduna, situé à 160 km au nord d'Abuja. Les passagers seront alors convoyés par des bus sécurisés jusqu'à la capitale. Les compagnies internationales comme Air France ont refusé d'utiliser l'aéroport de Kaduna en raison des infrastructures vétustes et des problèmes de sécurité.
Au Mali, l'armée française a tué 4 membres d'un groupe armé qui avait ouvert le feu sur elle dans le nord du pays, près de la frontière algérienne. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'état-major, le colonel Patrick Steger. En Somalie, Hassan Ali Kerr, un ancien travailleur humanitaire et cadre d'une compagnie pétrolière, a été nommé premier ministre par le nouveau président Mohamed Abdullahi Mohamed. Le ministre sud-africain de l'Intérieur, Malusi Gigaba, a lancé un appel au calme après une récente série d'incidents violents dirigés contre des immigrés qui ont ravivé le spectre des émeutes xénophobes meurtrières de 2015 et 2008. Depuis deux semaines, plusieurs bâtiments occupés par des étrangers ont été brûlés par des riverains en colère à Johannesburg et dans la capitale du pays, Pretoria. Toujours en Afrique du Sud, l'ex-patron de la Compagnie nationale d'électricité sud-africaine Eskom, Brian Molefe, pressenti pour entrer au gouvernement, est officiellement devenu jeudi député de l'ANC, le Congrès national africain au pouvoir. Considéré comme un proche du président Jacob Zuma, M. Molefe avait démissionné en novembre de son poste de PDG d'Eskom après avoir été mis en cause dans une affaire de corruption. Son nom a refait surface ces derniers jours dans la presse locale qui le voit succéder au ministre des Finances, Bravin Gordhan, ou devenir son adjoint au portefeuille du Trésor. Internet est totalement coupé depuis plus d'un mois dans les deux régions de la minorité anglophone du Cameroun, en conflit avec le pouvoir de Yaoundé, une durée sans précédent en Afrique d'après l'ONG Internet sans frontières. Dans la durée, c'est la coupure la plus longue sur le continent, a indiqué l'avocate Julie Owono, responsable Afrique de l'ONG française Internet sans frontières. Proche du Nigeria, les deux régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest sont secouées depuis novembre par des troubles. Les leaders de la contestation dénoncent la marginalisation de la minorité anglophone, environ 20% des quelque 22 millions d'habitants du Cameroun, par rapport à la majorité francophone. Un journaliste togolais a été molesté par des gendarmes au cours d'un reportage dans la capitale Lomé, suscitant des vives condamnations de la presse locale et l'ouverture d'une enquête a-t-on appris jeudi de sources concordantes. Robert Kossi Avotor, journaliste au bi-hebdomadaire proche de l'opposition L'Alternative, enquêtait sur un litige foncier dans la banlieue nord de Lomé lorsqu'il a été battu par des gendarmes. Le procureur de la République a annoncé mercredi soir l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de cet incident.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Visite au Mexique du chef de la diplomatie américaine et du ministre américain de la Sécurité. Rex Tillerson et John Kelly s'entretiennent ce jeudi avec le président Enrique Peña Nieto et des membres du gouvernement mexicain sur diverses questions bilatérales comme l'immigration, le commerce et la lutte contre le trafic de drogue. Le point avec Timothée Donarmaï.
Les autorités mexicaines sont très remontées contre la politique du président Donald Trump en matière d'immigration, en particulier sa décision d'expulser massivement les sans-papiers, dont quelques 6 millions de Mexicains. Elles ont vivement dénoncé son projet d'ériger un mur le long de la frontière commune et d'en faire payer le coût, estimé à au moins 12 milliards de dollars, par le Mexique. Cette controverse avait amené le président Enrique Peña Nieto a annulé un voyage prévu en janvier ici à Washington. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson et le ministre de la Sécurité John Kelly ont donc la mission de rassurer le gouvernement mexicain quant à la volonté de Washington de préserver les bonnes relations avec Mexico, des relations saines et robustes, a tenu à souligner le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer. Le Mexique n'acceptera pas les nouveaux projets unilatéraux des États-Unis en matière d'immigration et n'hésitera pas à saisir les Nations Unies, a averti le ministre mexicain des Affaires étrangères, Luis Videgaray.
Étape décisive dans la bataille de Mossoul en Irak, les forces pro-gouvernementales ont repris aujourd'hui l'aéroport dans le sud de la ville au groupe État islamique, selon la télévision publique irakienne, ce qui ouvre la voie à la véritable bataille pour le contrôle de la patrie de la partie ouest de Mossoul. Jacques Aristide.
L'assaut a été déclenché au cinquième jour de la nouvelle offensive pour finir de reprendre la totalité de la deuxième ville d'Irak, un mois après la reprise de la partie est de Mossoul, dernier bastion du groupe État islamique. En début de semaine, les forces irakiennes avaient déjà repris plusieurs villages situés dans une zone désertique. D'après le commandant des forces du ministère de l'Intérieur, Hicham Abdul Kadem, ses troupes et celles des unités antiterroristes sont entrées dans l'aéroport et nettoient les routes des engins explosifs. explosifs laissés par les djihadistes. Le colonel américain John Dorian, porte-parole de la coalition internationale, a indiqué pour sa part que des soldats américains qui participent aux opérations ont essuyé des tirs et riposté dans et autour de Mossoul. Il n'a indiqué aucun bilan et aucune information n'a filtré non plus sur des pertes dans les rangs des forces irakiennes ou du groupe État islamique. L'aéroport tombé aux mains des djihadistes en juin 2014 et le complexe militaire, qui comprend des casernes et des terrains d'entraînement, sont situés près de l'axe routier Bagdad-Mossoul.
Rodrigo Rato, ex-patron du Fonds monétaire international, a été condamné ce jeudi à Madrid à 4 ans et demi de prison pour détournement de fonds au sein des banques espagnoles qu'il présida de 2010 à 2012. Rodrigo Rato a été condamné dans l'affaire dite des cartes blanches, pour laquelle étaient jugés 65 anciens dirigeants et membres des conseils d'administration de Caixa Madrid et Bankia pour avoir détourné 12 millions d'euros grâce à des cartes bancaires non déclarées entre 2003 et 2012. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Morgane Guiriec.
Cacao, la Côte d'Ivoire va mener un audit de sa filière en difficulté. Le premier producteur mondial de cacao fait face à une mévente de la récolte à l'origine de récentes manifestations des planteurs. La situation est essentiellement due au défaut d'exécution de certains contrats et à la sous-évaluation de la production sur la campagne principale, le tout pour un volume cumulé d'environ 350 000 tonnes, explique le ministre ivoirien de l'Agriculture. Le FMI accorde un prêt de 150 millions de dollars au Bénin. L'objectif est de soutenir le plan de relance économique. Il s'agit également de créer plus de marges budgétaires par la modernisation des administrations fiscales et douanières et l'amélioration de la qualité des dépenses publiques, indique le Fonds monétaire international. Et enfin, en Égypte, le retour des investisseurs étrangers prendra du temps, en dépit de l'adoption de réformes drastiques, selon des experts. Depuis la révolte de 2011 contre Hosni Moubarak, l'Égypte souffre d'une chute des revenus du tourisme et du ralentissement des investissements.
Nicolas Pinault est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
En Europa League, ça passe pour Manchester.
Battu 3-0 au match aller en Angleterre, l'AS Saint-Etienne a quitté l'Europa League hier soir en 16e de finale après un revers 1-0 à domicile contre Manchester United. Match nul un partout entre Fenerbahçe et Krasnodar, les Turcs sont éliminés. Et après sa victoire 3-0 en Grèce, Schalke 0-4 se contente d'un match nul un partout face au PAOK Salonique. Suite des matchs ce soir, Osmanlispor, le club turc contre l'Olympiakos. Après la gifle à l'aller, l'AS Rome qui accueille Villarreal, le Zénith Saint-Pétersbourg qui doit remonter 2 buts d'écart face à Anderlecht, l'Ajax d'Amsterdam qui reçoit le Legia Varsovie et puis l'Athletic Bilbao qui l'avait emporté sur le fil 3-2 face à l'Apoel Nicosie. A noter également Tottenham contre la Gantoise ou encore le Shakhtar Donetsk contre le Celta Vigo.
En Ligue des Champions, la Juventus a un pied en quart de finale.
Rapidement, en supériorité numérique, la Juventus Turin s'est imposée sur la pelouse de Porto 2-0 en 8e de finale aller de la Ligue des Champions hier soir. Mais la vieille dame, trop longtemps maladroite pour concrétiser sa longue supériorité numérique, a dû compter sur son banc. En effet, les deux remplaçants Marco Opchaka et Dani Alves ont été auteurs de 2 buts à la 72e et à la 74e minute pour finalement permettre aux Italiens de l'emporter.
C'était plus serré à Séville.
Supérieur dans le jeu, le FC Séville a battu Leicester 2-1, mais les Anglais gardent un espoir de se qualifier. En Andalousie, les buteurs de la soirée s'appellent Pablo Sarabia et Correa pour Séville. Jamie Vardy réduira le score pour les Anglais.
Un candidat malgache pour présider la CAF.
Oui, Ahmad à la tête de la fédération malgache se présente comme le candidat du changement et de la transparence à la présidence de la Confédération africaine. africaine de football. Il affirme être le seul à oser défier le Camerounais Issa Hayatou en poste, on le rappelle, depuis 1988 et qui briguera un huitième mandat le 16 mars prochain.
Des ennuis au Caire pour le gardien El Hadary.
Oui, le légendaire gardien de but égyptien Hassam El Hadary, 44 ans, est menacé par son président de devoir quitter son club Kayrotte de Wadi Degla après une altercation avec un coéquipier. Il sera privé de match ce jeudi. Aucun communiqué officiel du club n'est pour le moment disponible.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui. On passe à présent au dossier du jour et on commence par les États-Unis. 137 immigrés sénégalais en situation irrégulière aux États-Unis font l'objet d'une mesure d'expulsion. Les intéressés ont épuisé toutes les voies de recours et les services compétents américains et sénégalais discutent de la mise en œuvre de ces mesures. 11 personnes ont déjà accepté leur rapatriement par vol commercieux. Idriss Fall a joint El Hadj Ndao, le consul du Sénégal à New York.
Effectivement, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait un communiqué faisant état d'expulsion de Sénégalais des États-Unis au nombre de 137. Ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est vrai qu'avant, les pays d'Afrique n'étaient pas tellement, disons, intéressés à un chiffre aussi élevé, parce qu'avant, c'était plutôt les pays d'Amérique latine. Mais on voyait toujours les services de l'immigration procéder à des expulsions. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce qu'on leur reproche, c'est d'être ici de manière irrégulière. Soit c'est des entrées irrégulières, et ça, c'est pour la grande majorité des cas. Il y a d'autres cas aussi, mais vraiment très minimes, de cas de, disons, d'infraction et de crime. Et là aussi, c'est des gens qui ont bénéficié de procédures légales. Donc, en tout cas, que nous sachions, on a demandé à ces intéressés, pour la plupart en tout cas, s'ils ont été présentés devant un juge, s'ils trouvent anormal les procédés qui leur a été réservé, mais il n'y a pas de grief à ce niveau. Donc, vous comprendrez que s'il n'y a pas de grief à ce niveau, le consulat général, ou en tout cas le Sénégal, ne peut pas avoir raison de se plaindre d'une procédure.
Est-ce qu'on a idée de combien de Sénégalais vivent illégalement aux États-Unis?
Non, on ne peut pas avoir accès à ça. Ce qu'on peut savoir, c'est combien de Sénégalais à peu près sont aux États-Unis. Bon, on ne peut pas avoir accès à leur statut d'immigration, malheureusement.
Et combien de Sénégalais sont aux États-Unis à peu près?
C'est à peu près entre 80 000 et 100 000 Sénégalais. La grande majorité est à New York, dans le Tri-State Area. Mais aussi, il y a une importante communauté sénégalaise dans le Midwest, dans la zone du Ohio Valley, dans la zone sud vers Atlanta et aussi dans la zone ouest vers dans l'État de Texas et aussi en allant vers la Californie.
Est-ce que vous avez reçu des pressions de l'administration Trump pour les expulsions de ces Sénégalais?
Pas de pression particulière. Le contexte, nous le vivons tous. Les politiques commencent à changer. Alors là, c'est pas, disons, des pressions ciblées au Sénégal ou en quelques pays que ce soit, mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a une politique qui change, surtout pour ce qui est de l'immigration, et il faudra prendre note et essayer de s'ajuster par rapport à tout ça.
El Hadj Ndao, consul du Sénégal à New York, joint par Idriss Fall.
Dans Washington Forum cette semaine, Donald Trump déclare la guerre à l'immigration clandestine. Sur plus de 11 millions de clandestins présents aux États-Unis, tous sont potentiellement expulsables. Quid de ces sans-papiers arrivés enfants sur le territoire? Cette procédure d'expulsion accélérée, sans passer par la case justice, crée un climat de peur. Qui est concerné exactement? La justice américaine peut-elle une nouvelle fois contrecarrer les plans de l'administration Trump? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
7 mois, jour pour jour, que le journaliste du groupe de presse Iwaku a disparu. La famille du disparu indique qu'elle vit dans la tristesse sans nom. Le rédacteur en chef du groupe de presse Iwaku affirme que malgré l'appel contre X lancé pour que la vérité soit connue, pour la CNDH, le dossier reste toujours ouvert. Le point avec notre correspondant Christophe Nkurunziza depuis Bujumbura.
Dans le quartier de Gituro à Kamenge, au nord de la capitale Bujumbura, la femme du journaliste disparu, Godbert Hakizimana, est en train de lessiver les habits. 7 mois viennent de s'écouler après la disparition de son mari, Jean Bigirimana. S'il est vrai que certains anciens collègues lui donnent une assistance momentanée, Hakizimana ne cache pas sa tristesse. Sans travail, elle se débrouille pour faire vivre ses 2 enfants de 8 et 3 ans, même si elle vient de faire 6 mois sans payer le loyer de la maison. La désolation se lit sur le visage de Godbert Hakizimana.
Chaque 22 du mois, la tristesse et le chagrin s'emparent de nous. C'est le jour où le chef de cette famille a disparu. C'est vraiment la tristesse pour ses enfants et sa famille. Nous vivons difficilement car la vie est devenue très chère. Je n'ai pas de travail, je ne peux pas non plus aller étudier. C'est la désolation. Nous venons de passer 6 mois sans payer le loyer.
Pour le groupe de presse Iwachu, les journalistes qui ont déjà saisi la justice garde espoir que Jean Bigirimana serait toujours en vie. Les témoignages du directeur adjoint de Iwachu, Léandre Sikuyavu.
À Iwachu, c'est la tristesse parce que jusqu'à présent, on n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Nous avons déposé une plainte contre X au niveau de la justice. Nous attendons toujours. Ce que nous leur demandons, c'est de redoubler d'efforts pour que la lumière soit donnée et sa famille puisse savoir ce qui est arrivé envers notre confrère Jean.
Les chances de retrouver le journaliste Jean Bigirimana s'amenuisent de jour en jour. Le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi estime qu'une fois les auteurs de cette disparition retrouvés, ils seront punis conformément à la loi. Jean-Baptiste Baribonekereza.
Du point de vue de la CNDH, le dossier reste ouvert. En fait, nous sommes dans une procédure qui devrait aboutir par la connaissance exacte des circonstances dans lesquelles le journaliste a disparu, de pouvoir identifier les auteurs de cette disparition, de pouvoir les traduire en justice au cas où les informations obtenues étaient suffisamment convaincantes pour un dossier judiciaire identifiant les auteurs.
Tout le monde appelle les autorités burundaises à s'investir davantage pour que la vérité sur la disparition de Jean Bigirimana soit connue. Human Rights Watch indique que la famille de Jean Bigirimana a droit à une enquête indépendante et approfondie. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Le Burkina Faso veut pouvoir parier à l'éventualité d'une épidémie de méningite dans le pays. Les autorités sanitaires mettent en place le dispositif de riposte au vu de la côte d'alerte, atteinte notamment par la ville de Batié dans le sud-ouest du pays. À Ouagadougou, les détails de notre correspondant Issa Napon.
Les autorités sanitaires du Burkina ont mis en branle le plan de riposte au vu du niveau d'alerte atteint par le département de Batié, un département situé dans le sud-ouest burkinabé. Le directeur de la lutte contre la maladie, Dr Bruce Wilfried Bikaba.
Le seuil d'alerte, il faut dire que c'est lorsque le district atteint 3 cas pour 100 000 habitants. C'est le seuil à partir duquel vraiment on nous sommes vraiment en vigilance. Et le seuil épidémique, il est de 10 cas pour 100 000 habitants. Nous avons observé que le district sanitaire de Batié avait atteint le seuil d'alerte, ainsi que le district de Titao. Donc, sur recommandation du Comité national de gestion des épidémies, nous avons décidé exceptionnellement cette année de faire une campagne de vaccination dans les 2 districts.
Un réveil nécessaire des dispositifs, même s'il n'y a pas lieu de s'alarmer, indique celui qui était encore lundi, le ministre de la Santé du Burkina Faso, Dr Smaïla Ouedraogo.
Il y a de fortes chances que nous n'ayons pas d'épidémie. Les éléments qui nous font dire qu'il y a de fortes chances, ce sont lesquels? Nous essayons de comparer nos statistiques, donc c'est-à-dire le nombre de cas, par exemple, de méningite chiffres qu'on a eu à enregistrer l'année passée au cours des 5 premières semaines à celles qu'on a enregistrées aujourd'hui au cours des 5 premières semaines de l'année 2017. En termes de statistiques, l'année passée, durant les 5 premières semaines, nous avions 433 cas de méningite. Cette année, nous avons 298 cas. L'année passée, on avait 49 cas de décès de méningite. Cette année, malheureusement encore, on a des décès qui se chiffrent à 16 cas, moins important que l'année passée.
Cette activation du système de riposte a valeur plutôt de prévention pour ces dernières semaines, selon le docteur Biss-Wilfried Bikaba, directeur de la lutte contre la maladie. Il dresse le dispositif.
C'est un plan qui comporte pré-épidémique, des phases donc pré-épidémique et post-épidémique, ce qui suppose qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises en termes donc d'acquisition de médicaments et de mettre à disposition des centres de santé, étant donné que la prise en charge de la méningite donc, est gratuite. Et ensuite, nous avons les acquisitions des réactifs, la mise à disposition des agents de santé directifs, du rappel donc, des précautions à prendre et des protocoles à observer. Nous avons également, depuis un certain temps, commencé un certain nombre d'activités de sensibilisation, se protéger de la poussière, humidifier donc, les muqueuses nasales avec donc, du beurre végétal et également aller une formation sanitaire lorsqu'on a une fièvre.
Situé dans la ceinture méningitique de la sous-région, le Burkina Faso est balayé à cette période de l'année par l'Harmattan, un vent chaud et sec qui charrie des quantités de poussière contenant les germes de la méningite. La combativité des autorités sanitaires permet cependant de juguler ces méfaits grâce notamment au travail de prévention mené dans tous les districts à risque. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Découverte autour d'une étoile naine, Trappiste 1, d'un système de 7 planètes de la taille de la Terre, dont 3 d'entre elles pourraient abriter la vie, révèle une étude publiée dans Nature. Elles sont situées dans notre galaxie à seulement 39 années-lumière de la Terre. La recherche du vivant sur une autre planète est désormais à portée de main, estime l'astrophysicien Didier Guelloz, co-auteur de l'étude, joint par Nathalie Barge.
C'est vraiment une avancée remarquable parce qu'en plus d'être 7 planètes, c'est 7 planètes pour lesquelles on va bientôt pouvoir étudier leur atmosphère, ce qui n'a jamais été fait et ce qui est vraiment très excitant. Comme l'étoile est très petite, eh bien, les planètes laissent une grosse trace. Elles passent juste devant. Les planètes ont la taille de la Terre. Elles font un gros transit. Et quand on a un transit relativement important, ça devient relativement facile d'aller chercher des détails, comme par exemple l'effet de l'atmosphère autour de ces planètes. Alors, on ne l'a pas encore fait parce qu'on n'a pas encore regardé avec le bon télescope, mais c'est quelque chose qui pourrait être fait. Et ça, c'est unique au monde. Ça n'est jamais arrivé. Et c'est vraiment quelque chose qui va quelque part apporter une nouvelle information sur le monde des exoplanètes, qui est en fait, est-ce que les planètes qui ont à peu près la densité de la Terre, donc probablement qui ont des structures identiques à celles de la Terre, est-ce qu'elles ont toutes des atmosphères? Et si elles ont des atmosphères, quelle est la nature et la structure de leur atmosphère?
39 années-lumière, qu'est-ce que ça représente en année terrestre?
En fait, en termes astronomiques, c'est vraiment tout près, mais c'est vrai, en termes humains, c'est extrêmement éloigné. Donc là, on parle de distance astronomique. Dès que vous voulez aller vers une autre étoile, vous êtes déjà à des distances qui sont inhumaines. Donc il faut complètement oublier la notion de distance. Par contre, quand vous comparez les distances de ces étoiles avec les distances de toutes les étoiles qu'il y a dans la galaxie, alors elles sont extrêmement proches parce que la galaxie, elle a 100 millions d'années-lumière de taille. Et puis l'univers, il a à peu près 16 milliards d'années-lumière de taille. Donc vous voyez, là, on est vraiment tout autour de nous, dans la banlieue autour du système solaire.
Est-ce qu'il est possible donc qu'il y en ait certaines qui soient habitables?
On en a 3 qui sont dans la zone habitable, mais encore une fois, ça ne veut absolument rien dire, parce que par exemple, Vénus sur notre système solaire est dans la zone habitable et on ne peut pas y habiter parce que l'atmosphère de Vénus ne permet pas d'y vivre. Donc en fait, je crois que c'est là l'avancée exceptionnelle qu'il y a avec cette découverte. Et ça, on pourra le faire. Et ça, c'est une première mondiale. Ça n'était pas possible, ça ne sera pas possible pour toutes les autres planètes que l'on a trouvées, mais c'est effectivement possible pour celle-ci. Donc demain, on va vraiment avoir une démarche scientifique. Et à partir des données, on va tirer des conclusions. Et là, on va pouvoir avoir un modèle de l'atmosphère de ces planètes. planète. Et là, on pourra répondre à votre question.
Le professeur Didier Guéloz, chercheur du groupe d'astrophysique du laboratoire de Cavendish à Cambridge et également à l'Université de Genève.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise à nom de par Georges Léonard Sagno. Charles Smith était à la console. Présentation John Lydon. Merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VO Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui. Diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM. 92.9 FM. Bahia, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.